Saviez-vous qu'une trentaine de dates du calendrier sont dédiées au monde mystérieux et pas assez connu du handicap ? Vous écoutez un épisode d'Andy Flash, un podcast réalisé par la Caisse des dépôts, et ici on met en lumière, avec des experts et des témoignages, les journées du calendrier pour vous parler de handicap. La journée au départ national de l'audition est initiée le 3 mars 2000 par des membres de la Conférence consultative politique du peuple chinois. En 2013, avec l'approbation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le 3 mars devient la journée mondiale de l'audition. Et je suis allée chercher pour vous des personnes bien placées pour en parler. Denis Lesquer, directeur général de la Fondation pour l'audition, est avec nous pour échanger sur le sujet. Denis, bonjour. Merci de me recevoir ici à la Fondation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Alors, je suis Denis Lesquer, le directeur général de la Fondation pour l'audition, et je suis dans cette fonction depuis un peu moins de 3 ans.
Merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter aussi la Fondation ?
Alors, la Fondation pour l'audition a été créée en 2010, au départ sous la forme d'une association de préfiguration, sous l'impulsion de Françoise Bettencourt-Meyers, Jean-Pierre Meyers et la Fondation Bettencourt-Schuller. Depuis 2015, elle est reconnue d'utilité publique et œuvre au quotidien pour faire avancer la cause de la santé auditive.
Et qu'est-ce qui a motivé sa création ? Quel est son objectif principal ?
Alors, il est important de savoir qu'aujourd'hui, un Français sur 4, dès le plus jeune âge, est touché par une forme de trouble de l'audition. Derrière ce chiffre inquiétant, il y a des hommes et des femmes. Si certains ont fait de leur différence une force, d'autres rencontrent des difficultés dans la vie de tous les jours, se sentent isolés ou souhaiteraient souvent plus de bienveillance pour leur différence. Ils aspirent à des solutions d'accessibilité et des solutions thérapeutiques. Et c'est pour toutes ces personnes, ainsi que pour les générations à venir, qu'a été créée cette Fondation pour l'audition. Son ambition est simple, œuvrer concrètement pour que cette cause de l'audition soit reconnue comme étant une cause importante dans la dimension recherche, inclusion et prévention.
Combien vous êtes à travailler ici ?
Alors, nous sommes à la fois une structure composée de personnes salariées, donc il y a une dizaine de personnes salariées, et puis bien évidemment, un conseil d'administration composé de 12 personnes. Nous sommes basés à Paris, juste à côté de l'Institut de l'audition, qui est un centre de l'Institut Pasteur, qui a été créé à l'initiative de la Fondation pour l'audition.
Pour entrer plus dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les facteurs qui contribuent à la perte d'audition et quelle est la première cause ?
Alors, votre question est extrêmement pertinente parce que ce sujet est bien évidemment insuffisamment connu aujourd'hui par le grand public. Un peu d'anatomie. Chaque oreille ne dispose environ que de 3500 cellules sensorielles. C'est ce qu'on appelle les cellules ciliées qui ne se régénèrent pas lorsqu'elles sont détruites.
Pourquoi sont-elles détruites ?
Pour différentes raisons. Il y a des questions vieillissement naturel de l'audition. L'audition peut être aussi exposée à des traumatismes acoustiques. Et j'en viens sur ces cellules ciliées qui peuvent être effectivement endommagées de façon irréversible. L'audition peut aussi être atteinte par des attaques bactériennes, virales ou autotoxiques.
C'est quoi autotoxique ?
Autotoxique, c'est la prise de médicaments qui peut effectivement avoir un impact sur l'audition. En plus de la perte auditive, l'oreille peut aussi souffrir de pathologies diverses comme les acouphènes ou l'hyperacousie. Donc vous voyez que le champ de l'audition et de ses pathologies est un champ extrêmement large et cela explique effectivement que, sans que vous le sachiez, un Français sur 4 aujourd'hui est concerné par une forme de malentendance, j'utilise plus le terme de malentendance, aujourd'hui en France.
Comment vous travaillez à la prévention de ces facteurs justement ?
Alors, la Fondation pour l'audition mène plusieurs programmes de prévention à différents âges de la vie. Premier projet, le projet Décibel, pour la sensibilisation à la protection du capital auditif pour les enfants en école primaire. On développe également des zones de pause sonore qu'on appelle relaxons en festival de musique. On a mis en place récemment des podcasts qui s'appellent « Prenons la mesure du son ». Ça, ce sont quelques exemples de projets d'action développés par la Fondation en termes de prévention. Par ailleurs, la Fondation a développé un test de repérage auditif, ORA, H-O-T-R-A. Alors, le test ORA, développé par des experts en audiologie, permet d'évaluer de façon fine le capital auditif et les troubles de l'audition grâce à un test d'audition dans le bruit, appelé le test des 3 chiffres, qui est à la fois simple et rapide.
Comment ça se passe concrètement ?
Vous allez entendre une série de triplets pendant effectivement moins de 3 minutes et vous allez reproduire ces chiffres sur votre clavier. Le bruit va monter, la voix va baisser et au bout de 3 minutes, vous aurez un test extrêmement pertinent sur l'état de votre audition. Ce test a fait l'objet d'une publication scientifique. Il faut savoir que l'application est téléchargeable gratuitement sur les stores et développée par la Fondation pour l'audition, qui, je vous le rappelle, est une fondation reconnue d'utilité publique. Donc, pas de publicité, pas de sollicitation, un test que je recommande fortement de télécharger pour tester son audition, pour soi, pour ses proches, et pour se sensibiliser au sujet de l'audition.
Et ça, à n'importe quel âge.
Exactement.
Et alors, aujourd'hui, comment la recherche sur les troubles de l'audition progresse-t-elle ?
Alors, la recherche dans l'audition est multiple et progresse sur différents fronts. Les projets de thérapie génique pour les surdités d'origine génétique sont notamment en constant développement. La Fondation soutient l'ambitieux projet de recherche français Audinov, par exemple, qui vise à développer d'ici 2025 le premier essai clinique de thérapie génique chez des enfants souffrant de surdité DFNB9, l'une des surdités les plus fréquentes à la naissance.
Et est-ce que vous pouvez nous parler des dernières découvertes dans le domaine ?
Alors, des exemples. Une découverte majeure du domaine a été mise en évidence. Je prends l'exemple des surdités cachées portées par le professeur Charles Lieberman, notre Grand Prix scientifique 2022.
Ah, qu'y a-t-il découvert ?
Même une exposition relativement légère à des bruits peut détruire 50% des connexions entre les cellules ciliées de l'oreille interne et le nerf auditif, qu'on appelle les synapses. Cette maladie de la synapse a été surnommée surdité cachée, car elle n'est pas détectable par un audiogramme, le test de référence pour diagnostiquer un problème d'audition. Cette découverte permet d'expliquer pourquoi des difficultés d'audition dans le bruit sont une plainte récurrente chez beaucoup de personnes.
Et donc j'imagine que depuis cette découverte, des chercheurs sont en train de chercher des traitements pour ça.
Exactement. Des tests diagnostiques et des traitements sur ces surdités cachées.
Si on est un peu plus concret maintenant, comment la Fondation aide les personnes qui ont un handicap auditif à améliorer leur qualité de vie ?
Alors, on a développé des programmes d'accompagnement des professionnels pour une meilleure prise en charge des personnes sourdes ou malentendantes, aussi bien avec des médecins généralistes, des audioprothésistes, des orthophonistes, par exemple. On a aussi l'accompagnement des personnes sourdes ou malentendantes et de leur entourage pour mieux vivre au quotidien. Je pense aussi un programme très spécifique développé autour de la parentalité. Donc, c'est quand des parents découvrent la surdité de leur enfant. Un autre programme, c'est l'accompagnement des étudiants sourds ou malentendants dans leurs études supérieures. Et puis, on a également des actions en entreprise, à la fois de prévention, mais surtout expliquer l'inclusion des personnes sourdes ou malentendantes en milieu professionnel. Nous menons également des actions pour éviter des pertes d'autonomie des personnes âgées en faisant de la prise en charge de l'audition, notamment en établissement EHPAD.
Vous êtes sur tous les fronts.
On essaye d'être surtout, effectivement, alors sur tous les fronts, c'est un peu ambitieux peut-être, mais surtout à toutes les étapes de la vie.
Ah ça, ça nous parle à la Caisse des dépôts d'accompagner dans les étapes, faire partir du parcours de vie. Si on parle d'aujourd'hui, maintenant, quels sont les projets de recherche en cours financés par la Fondation et comment vous choisissez en fait ceux que vous allez soutenir ?
Alors la Fondation s'appuie avant tout sur un conseil scientifique international pour sélectionner des projets de recherche d'excellence en France majoritairement. Depuis 2013, nous avons soutenu 106 projets de recherche dans différents domaines qui ont donné lieu à 167 publications scientifiques. Pour vous donner quelques exemples, nous soutenons la recherche sur la génétique des surdités, la perception de la parole, le traitement des sons et de la parole par le cerveau.
Et est-ce que vous pensez qu'un jour, génétiquement, on arrivera à tout comprendre et creuser jusqu'au bout cette question de la surdité ?
Alors, ce que je ne peux pas vous dire, c'est dans quel délai, effectivement. Ce qui va être important, c'est que la compréhension, la physiopathologie du fonctionnement de l'audition, l'oreille interne et ce qui se passe au niveau du cerveau nous permettra effectivement demain, pour certains types de surdité, d'apporter des solutions. Cela paraît tout à fait évident. En parallèle de ça, il faut aussi avoir conscience que les technologies progressent et pas uniquement dans notre quotidien, aussi dans le domaine des appareillages ou des implants cochléaires. Donc à la fois, ce qu'il faut se dire, c'est que demain, mais dans un espace-temps peut-être encore un peu long, il y aura assurément des meilleures compensations par les technologies et assurément, il y aura des thérapies qui permettront de faire en sorte que certaines surdités pourront génétiquement être prises en charge.
De belles perspectives. Alors pour en revenir aux actions que vous menez, comment vous mesurez l'impact de vos programmes et initiatives et quelles sont vos mesures de réussite?
Alors, je vais plutôt vous parler des objectifs qu'on se fixe en fait. Pour nous, les marqueurs clés de réussite, ce sera effectivement quand les surdités ou la malentendance ne seront plus tabous dans nos sociétés, quand tout le monde se sentira concerné par ces sujets de santé auditive et que la santé auditive sera devenue un sujet important de santé publique, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui en France. Quand une découverte scientifique majeure aura été réalisée, ce qu'on appelle une innovation de rupture, quand le savoir-faire français en matière d'audition rayonnera à l'international, et nous l'espérons prochainement avec notre institut de l'audition, donc centre de l'Institut Pasteur que nous avons créé, avec qui nous collaborons de façon extrêmement étroite, quand les personnes sourdes ou malentendantes n'auront plus à faire des choix de vie en pensant que ce n'est pas pour eux. Et là, je vous parle de parfaite égalité des chances en milieu scolaire, en choix d'études, en inclusion professionnelle, en intégration dans la société. Donc là, je pense, parce que nos sujets sont vastes, que nous serons effectivement satisfaits à la Fondation quand sur ces différents sujets, nous aurons réussi à avoir des avancées majeures.
Et on espère que ce sera pour bientôt. Alors je voulais savoir, avec votre regard sur les gens que vous rencontrez, de quoi souffrent en premier lieu les personnes atteintes de troubles de l'audition ?
Ce qui est important de comprendre, c'est que les personnes sourdes ou malentendantes, aujourd'hui, sont insuffisamment comprises dans la société. Elles sont souvent confrontées à un isolement. Alors, elles peuvent se mettre elles-mêmes en repli. Et il y a aussi le fait que la société n'est pas encore adaptée, n'est pas toujours accessible pour que la communication soit clairement établie entre guillemets, les normo-entendants et les personnes sourdes et malentendantes. Il y a encore aujourd'hui une méconnaissance du grand public des difficultés auxquelles sont confrontées les personnes sourdes ou malentendantes dans la vie de tous les jours, en milieu professionnel, en enseignement, quand on est aussi une personne âgée à domicile ou en établissement. Aujourd'hui, je pense que la société n'a pas encore pris conscience qu'elle doit aussi faire un effort et s'adapter pour pouvoir mieux communiquer et mieux être en interaction avec les personnes sourdes ou malentendantes. Et là, je pense sincèrement qu'on a tous un effort à faire.
C'est certain. Et justement, en parlant de l'avenir, quels sont les plans futurs de la Fondation ?
Alors, nous continuons à soutenir la recherche dans toutes ses dimensions, la recherche fondamentale, essentielle pour trouver des solutions pour demain, et la recherche clinique, au plus près des personnes sourdes ou malentendantes. Je vous parlais à l'instant de l'Institut de l'audition que nous soutenons, qui est un centre donc, de l'Institut Pasteur. C'est un lieu de recherche interdisciplinaire des sciences de l'audition qui rassemble les meilleures équipes scientifiques en France, qui collaborent à l'international pour faire avancer la recherche en apportant de nouvelles solutions.
Est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des obstacles ? Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés ?
Alors, les principaux défis. Un enfant ou un adolescent sur deux aujourd'hui est exposé au quotidien à des sons extrêmement importants. Donc là, je parle de perte auditive par des expositions aux sons choisis, parce que c'est bien souvent à l'écoute de la musique. Les chiffres sont alarmants sur demain la possibilité qu'il y ait davantage de personnes sourdes ou malentendantes. Pour autant, la société n'a pas encore pris conscience que l'audition, c'est fragile, qu'on doit préserver son capital. Donc, dans les politiques publiques, nous menons des actions de lobbying pour que ce sujet de l'audition soit davantage pris en compte. Ce n'est pas un sujet majeur de santé publique, c'est un sujet important qui concerne beaucoup de personnes et qui doit être intégré à différents niveaux dans les politiques publiques. Donc notre action, c'est de faire en sorte que ce sujet soit mieux connu, mieux compris, mieux pris en compte.
Qu'est-ce que vous conseillerez par exemple aux jeunes qui sont exposés à des sons trop forts ?
D'arrêter de s'exposer, de mettre des bouchons d'oreilles, de décrocher un peu du casque, de se mettre en repos sonore, de prendre conscience que le capital est fragile, que s'il est altéré, son capital auditif, c'est malheureusement irréversible. On peut profiter pleinement du son, il faut simplement en limiter les expositions en puissance et en fréquence pour effectivement pouvoir profiter pleinement du son qu'on souhaite écouter.
Et c'est valable pour toutes les personnes qui ne souffrent pas de problèmes d'audition.
Je suis d'accord avec vous.
Merci beaucoup, Denis, pour cet échange extrêmement riche. C'était vraiment intéressant.
Merci à vous. Moi, je suis toujours très content de pouvoir parler de ces sujets. Encore une fois, le sujet de l'audition est un sujet, à mon sens, je ne pense pas être le seul à le dire, insuffisamment porté à la connaissance du grand public. Donc, merci à vous pour ce podcast.
Et merci pour ce que vous faites. Donc, je le rappelle, Denis Lesquer, vous êtes directeur général de la Fondation pour l'audition et vous nous avez apporté toutes vos connaissances sur l'audition et les avancées de la recherche sur le sujet de par votre métier dans le cadre de ce podcast réalisé pour la Journée mondiale de l'audition. Pour compléter les propos de Denis Lesquer, je suis allée à la recherche d'un témoignage d'une personne malentendante. J'ai donc interviewé Nicole Bosson, ancienne sage-femme à la retraite et présidente du conseil de l'Ordre des sages-femmes de Côte d'Or. Pour des raisons de distance géographique, je n'ai pas pu la rencontrer physiquement. Alors, petit exercice pour tester votre audition, ouvrez grand vos oreilles et écoutons Nicole via Teams. Bonjour Nicole, merci d'avoir accepté de témoigner dans le cadre de cet épisode d'Andy Flash, un podcast qui met en lumière la Journée mondiale de l'audition. Je vous ai contactée parce que vous êtes vous-même malentendante, mais vous êtes également la maman d'un malentendant, donc vous allez nous parler de tout ça. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter ?
Oui, alors je suis donc Nicole, j'ai 73 ans. Je suis sage-femme de mon métier, puis sage-femme enseignante. Pendant 40 ans, j'ai exercé dans les hôpitaux et à l'université. Et je suis malentendante. On va dire que mon audition a baissé entre 35 et 40 ans.
Et alors, d'où vient ce problème d'audition ?
Alors, quand j'ai commencé à moins bien entendre, j'ai consulté, bien sûr, au CHU où je travaille, et j'ai une grand-mère qui était sourde à partir de l'âge de 25 ans. Mais à cette époque, on ne faisait pas d'examen auditif, donc on ne savait pas pourquoi elle était sourde et sa surdité s'aggravait. On l'a su quand elle était beaucoup plus âgée et qu'on a commencé à faire des recherches. Donc, c'est une atteinte génétique qui touche le nerf auditif. C'est pas dans l'enfance, ça vient vers 30 ans, ça commence à se dégrader assez rapidement, puis après ça se stabilise comme surdité.
Donc c'est vraiment héréditaire chez vous ?
C'est héréditaire, j'ai un fils qui est atteint de la même, on va dire, surdité. Bon, j'ai des petits-enfants, mais comme ils sont jeunes, ils ne sont pas encore dans cette tranche d'âge où la surdité se manifeste.
Et comment vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème ? Vous avez tout de suite compris ou pas ?
Alors, c'est difficile parce qu'au début, on ne s'en rend pas vraiment compte. Donc, on se dit, mais tiens, j'entends moins bien, mais on fait des efforts. Et c'est surtout l'entourage qui, petit à petit, se rend compte qu'on n'entend plus. Moi, maintenant, qui suis appareillée déjà depuis longtemps, si j'enlève mon appareil, alors je suis dans le silence absolu.
Oui, j'allais vous demander, si vous retirez vos appareils, vous êtes sourde.
Alors, bon, bien sûr que s'il y a une musique très forte, s'il y a des gens qui crient, je les entends quand même. Mais quand je n'ai pas mes appareils, je n'entends pas la sonnerie du téléphone, je n'entends pas les gens parler, je n'entends même pas les chats miauler.
Et alors, comment vous avez réagi lorsque vous avez su qu'Alexandre était malentendant ?
Ben vous savez, on est toujours très malheureux de transmettre à nos enfants un gène qui n'est pas classique.
Oui, j'imagine.
Bon, ça m'a embêtée, mais contrairement à moi, on était sensibilisés. Bon, j'ai une fille qui entendrait une mouche voler. Et donc, quand Alexandre a commencé à poser des problèmes auditifs, bon, il avait des otites. Alors, les enfants, on sait bien qu'ils sont un peu fragiles de ce côté-là, mais j'ai tout de suite pensé qu'il devait consulter et même qu'un jour il deviendrait sourd. Oui, c'est triste de transmettre à un enfant un handicap, mais on a de la chance parce que maintenant on a des appareils auditifs très performants et bon, même si ça reste un handicap, on s'y habitue et on essaye d'adapter notre entourage à notre handicap. Bon, j'espère qu'aucun de mes petits-enfants ne seront sourds.
Et on l'espère aussi. Et est-ce que vous avez appris la langue des signes ou le langage parlé complété ?
Non.
Et ensuite, les appareils, comment vous les avez adoptés ?
Vous me direz que l'appareillage est facile, mais il est cher, très cher. Bon, moi, j'ai un peu reculé devant...
Cette aide ?
Ben oui. Par contre, j'ai un petit-fils qui entend moins bien que les autres, qui a 22 ans. Si jamais il avait quoi que ce soit, je crois que vraiment, je l'accompagnerais pour qu'il n'attende pas du tout.
Et ça se comprend. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez été appareillée ?
La première fois que j'ai été appareillée, l'audioprothésiste m'a dit « Quand vous allez sortir dans la rue, ça va vous faire de l'effet, il y a du bruit, vous pourrez baisser votre appareil. » Et quand je suis sortie, il faisait des trous dans le boulevard. Il y avait donc, vous savez, une machine.
Un marteau-piqueur, oui.
Ah ben oui, ça faisait un bruit terrible. Ça m'a fait un grand plaisir d'entendre tous ces sons. Le cliquetis de mes clés, des choses ridicules qui semblent ridicules.
Mais qui font partie de la vie. Et vous avez dû voir l'évolution du dépistage en la matière.
Aujourd'hui, on commence à faire des tests. Bon, moi, je suis sage-femme, donc on commence à faire des tests, même au début de la vie, et puis très rapidement dans les crèches, dans les écoles.
Oui, c'est une belle avancée pour détecter au plus vite les éventuels problèmes.
Vous voyez, on dit que le fœtus entend dans le ventre de sa mère. Alors, je ne sais pas si les sourds aussi entendent, parce que c'est très différent. Mais une fois que l'enfant est né, la voix de sa mère, tout ce qu'il ressent par les bruits, par la musique et tout, celui qui en est privé, ça perturbe son développement. C'est très important.
Oui, donc plus on le détecte tôt, plus on favorise aussi le bon développement de l'enfant.
Oui, bon, il y a aussi des solutions maintenant un peu chirurgicales, mais ma surdité ne répondait pas à cela. Et donc, l'ORL dit non, on ne vous opère pas parce que ça n'apporterait rien.
D'accord.
On peut mettre aussi un appareil pour permettre d'entendre. On a eu un jour un étudiant sage-femme qui a eu cette greffe d'appareil pour pouvoir continuer son métier. Parce que quand j'ai commencé mon métier, on entendait les bruits de cœur avec une petite trompette en bois.
Ah, excellent.
Là, j'avais encore mon audition allait bien. J'entendais le bruit du cœur des enfants. Maintenant, il y a du matériel et vous l'entendez par un appareil qui prend les sons du cœur de l'enfant. C'est vrai qu'on a aussi besoin dans notre métier, aussi bien pour voir que pour entendre, pour diagnostiquer.
Oui, justement, j'allais vous demander, dans le cadre de votre métier de sage-femme, comment est-ce qu'on exerce ce métier avec des problèmes d'audition ?
Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai connu les deux périodes, une période, on va dire, encore très archaïque, où on n'avait pas de moyens modernes d'échographie, on était tout à l'oreille, la main, les yeux et les oreilles nous apportaient beaucoup dans le diagnostic. Aujourd'hui, c'est totalement différent, puisqu'on a des moyens techniques qui enregistrent et qui vous renvoient le rythme de l'enfant directement. On a vraiment tout ce qu'il faut, sauf si on s'en va dans un pays en voie de développement comme en Afrique, où là on a besoin de nos sens. Mais en France, quelqu'un qui est malentendant pourrait être sage-femme, peut-être pas quelqu'un qui est complètement sourd parce qu'il y a le dialogue avec la personne. Par contre, il y a des sages-femmes qui accouchent, des femmes malentendantes, et certaines apprennent un peu la langue des signes.
Ah oui, ça doit être un vrai soulagement pour les femmes concernées. Vous parliez tout à l'heure du coût des appareils auditifs, vraiment onéreux. Est-ce que vous avez pu être accompagnée dans ces démarches ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été facile ou au contraire un vrai casse-tête ?
C'est vrai que je n'ai pas du tout été accompagnée, bon, vous me direz, il y a longtemps de cela. Oui, j'ai eu du mal. Ben, j'ai payé l'appareil au prix proposé parce qu'il fallait vraiment que j'entende. Surtout que les dernières années de mon exercice, j'ai fait beaucoup d'enseignement. Alors, l'enseignement, c'est un dialogue permanent et vous devez entendre. J'ai fait du e-learning avec des étudiants du bout du monde. Alors, il faut bien les entendre.
Ah oui, en effet.
Après, pour mon fils, ça a été différent puisque lui, il a eu beaucoup d'informations et c'est même lui qui m'a permis pour un appareil d'avoir une aide, une petite aide, mais bon. Alors, il a pris conscience que ce handicap, son employeur et tout, l'avait vraiment considéré comme un handicap. À mon époque, c'était pas encore, vous voyez, même à l'hôpital où on avait des consultations, la médecine du travail. Autant on était prémunis, les vaccins et autres. Mais par contre, l'audition, on n'en a jamais parlé. Voilà.
Et qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui aux parents qui pourraient éventuellement avoir un enfant sourd ?
Dire aux parents que c'est très important que l'enfant soit dépisté de bonne heure. Faire comprendre que, bon, c'est un handicap, d'accord, mais que ce handicap, il est surmontable, il faut accepter l'appareillage, il faut peut-être accepter aussi de faire savoir qu'on est sourd. Il faut que l'enfant il soit capable de dire aux autres « je n'entends pas, il faut me parler doucement et si je fais répéter, c'est pas parce que je me moque des autres, mais c'est parce que j'en ai besoin ». C'est vrai qu'il faut rendre l'enfant solide pour qu'il puisse affronter finalement des fois le regard des autres qui n'est pas toujours tendre. Et à se faire une place dans la vie en disant ben, « j'entends pas bien » plutôt que de dire « ah ben je vais tout cacher, bien sûr derrière mes cheveux ».
Oui, c'est vraiment l'histoire d'assumer son handicap pour mieux l'accepter et le faire comprendre aux autres.
Oui.
Qu'est-ce que vous imaginez comme perspective sur le sujet de l'audition pour demain ?
Je pense qu'il faut continuer les travaux pour rendre l'audition aux malentendants, même si ce sont des interventions sur le nerf, des interventions autres ou du matériel que l'on peut greffer et qui vous permettent d'entendre. Personnellement, vous savez, il y a la langue des signes. Mais je pense que si on arrive un jour, eh bien tant pis s'il n'y a plus la langue des signes. Vous voyez, moi je préfère qu'on travaille au maximum dans la médecine, trouver des moyens pour que les gens entendent, même s'ils sont performants, on n'a pas terminé les recherches, parce que pendant longtemps, ça n'a pas été un handicap majeur, la surdité. Oh, ben, il n'entend pas, il n'entend pas. Bon.
Oui, c'est ce que nous a dit aussi Denis Lesquer en première partie de ce podcast. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, peut-être ?
Peut-être un conseil, alors qu'il n'est pas vis-à-vis des enfants, mais vis-à-vis des personnes âgées. Je trouve qu'il est trop dommage que beaucoup de personnes âgées s'enferment dans une surdité qui les coupe du monde et qui les font vieillir plus vite.
Bien sûr.
Oui. Et puis, surtout le dépistage. Je pense qu'il vaut mieux avoir un doute qui après ne se confirmera pas. Mais je pense que les parents ne sont pas assez attentifs à l'audition. Et un enfant qui est malentendant aura aussi beaucoup de difficultés parce qu'il va se couper des autres.
Et c'est tellement dommage parce qu'on est des êtres de relation, on a besoin de communiquer, d'échanger. Un immense merci Nicole pour votre témoignage, c'était passionnant de vous entendre sur votre métier d'ancienne sage-femme et vos problèmes d'audition. Nous avons échangé autour de la Journée mondiale de l'audition célébrée tous les 3 mars. C'est l'occasion de rappeler qu'il faut continuer de sensibiliser à l'importance des soins de l'oreille et de l'audition, au dépistage et de poursuivre les actions menées pour davantage d'égalité, d'accessibilité et d'autonomie pour les personnes déficientes auditives.
Merci. Et puis, j'espère que cette journée permettra encore de faire de grands progrès pour rendre l'audition à tout le monde.
Merci Nicole et bonne continuation.
Merci, au revoir.
N'hésitons pas à nous informer sur les handicaps auditifs. Et pour plus d'informations sur les actions mises en place par la Caisse des dépôts sur le sujet, rendez-vous sur politiquesociales.caissedesdepots.fr.